Si je vous posais la question, quelle est la lettre qui constitue dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le testament spirituel de Paul? Que diriez-vous, ceux qui lisent la Bible depuis longtemps? Non. Pardon? 2 Timothée, exactement, la deuxième lettre de Paul à Timothée. Pourquoi je dis cela? D'abord, on sait que cette lettre est la dernière que Paul a écrite. Elle a été écrite autour de l'an 67 après Jésus. Et dans cette lettre, on sent que Paul sait qu'il va bientôt mourir. Dans 2 Timothée 4, 6 à 8, je vous lis simplement ce qui est écrit. « Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Dans toutes les autres lettres, Paul va de l'avant, il regarde en avant, il parle de ses projets. Et c'est la première fois ici, dans l'épître de la deuxième à Timothée, que Paul s'autorise à s'adresser à un commentaire de satisfaction. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Paul sait qu'une mort cruelle l'attend. Certainement, il sait, je ne sais pas s'il a prévu ce qu'il attend, il va être décapité, Paul. Mais ce qu'il regarde, c'est la couronne de justice qui lui est réservée, la récompense. La deuxième raison pour laquelle on pense que cette lettre est le testament de Paul, bien, ça vient du caractère personnel et intime de la lettre. Paul parle, s'adresse à celui qui est son fils spirituel, Timothée. À 2 reprises dans la lettre, il appelle Timothée « mon enfant » et dans tout le Nouveau Testament, Paul appelle Timothée « mon enfant ». Il ajoute parfois 2 adjectifs à ce titre. « Mon enfant bien-aimé et légitime ». Il y avait une relation très très proche de proximité de père à fils entre Paul et Timothée. Dans la lettre à Timothée, Paul donne des instructions précises à Timothée parce qu'il sait que sa fin est proche, mais aussi il voit tous les dangers qui menacent les églises. Et toute l'histoire de l'église nous montre qu'il avait raison, qu'il était inspiré en écrivant cette lettre, parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines, de faux docteurs qui ont essayé de détruire l'évangile et de détourner l'église du but. Mais ce matin, je ne vais pas parler de cela. Dans le 4e chapitre, c'est un chapitre qu'on lit le plus vite possible. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Souvent, dans les derniers mots des lettres, on passe vite parce que Paul prend son temps pour saluer beaucoup de monde. Puis on se dit, bon, ben voilà, c'est intéressant, mais sans plus. Hein. Paul parle de ses déceptions aussi dans ce chapitre 4, versets 16 à 17. Il dit « La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu, tous m'ont au contraire abandonné, qu'il ne leur en soit pas tenu compte. » Paul est souvent seul dans ses combats. Dans la seconde lettre à Timothée, Paul évoque ses relations avec au moins 15 personnes. Certains noms sont connus parce qu'ils sont cités dans d'autres lettres. D'autres apparaissent pour la première fois ici. Il y a Eraste qui est présent dans cette lettre. Et ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête sur 2 personnes en particulier que Paul salue dans cette lettre. Ce sont des personnes qui apparaissent à plusieurs endroits dans la Bible. Elles font partie du cercle proche de l'apôtre. Et c'est intéressant ici parce que, comme je l'ai dit, Paul est à la fin de sa vie. Donc, les salutations qu'il leur adresse, ce n'est pas simplement ponctuel, mais ça parle aussi du parcours de ces personnes. Parce qu'elles ont accompagné Paul longtemps. La première personne dont on va parler, c'est Démas. Et la seconde, c'est Marc. Mais on va surtout passer du temps avec Démas ce matin. On va lire 2 Timothée 4, versets 9 et 10, qui nous dit ce que Paul dit à Démas à la fin de sa vie, alors que Démas a été un compagnon longtemps de Paul. « Tâche de me rejoindre au plus vite », c'est Paul qui dit ça à Timothée. Pourquoi ? Parce que Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent et il est parti pour Thessalonique. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la première fois que Démas se trouve cité dans les lettres de Paul. On retrouve le nom de Démas dans l'épître aux Colossiens, dans Colossiens 4, 14, où il est dit « Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas ». La lettre aux Colossiens a été écrite en l'an 60 à peu près, 7 ans d'écart avec 2 Timothée. Philémon, dans la lettre à Philémon, il est dit « Épaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs ». Un renseignement supplémentaire, on voit que Paul met Démas au même rang que Luc et Aristarque, qui sont ses collaborateurs. Luc et Aristarque ont accompagné Paul lors de son deuxième voyage missionnaire, qui commença en l'an 50 après Jésus. Entre 50 et 67, donc au plus haut. Si Démas les a rejoints à ce moment-là, ça signifie qu'il a au moins été 17 ans dans l'entourage de Paul, au minimum 10 ans. Si ce n'est pas 17 ans, c'est 10 ans, puisque Paul a écrit sa lettre aux Colossiens en l'an 60 et qu'il salue les Colossiens au nom de Démas. Ça veut dire que Démas est connu des Colossiens depuis un moment. Qu'est-ce qu'on peut dire de Démas en lisant ce que Paul écrit? La première chose qu'on peut dire, c'est que Démas a bien commencé sa vie chrétienne. On n'a pas de détails sur sa conversion, ni sur le lieu d'où il vient. Son nom, qui a un nom grec, comme Aristarque, signifie qu'il est certainement grec d'origine. Et on peut penser que aussi bien Aristarque que Démas venaient de Thessalonique. D'ailleurs, c'est pour Thessalonique qu'on voit ici Démas est parti. Donc, il retourne peut-être dans la ville d'où il vient. Donc, on ne sait pas exactement à quel moment il s'est converti. Mais ce qu'on sait, c'est que Démas a reçu un fardeau dès le début de sa vie chrétienne, c'est d'annoncer l'Évangile. Il a rejoint Paul, Luc, Aristarque, Marc, Épaphras, des noms qui sont dans la Bible, des noms de serviteurs de Dieu, d'hommes de Dieu, qu'on lit et qu'on retrouve dans les lettres de Paul. Il a eu autour de lui et à côté de lui les meilleurs modèles qui soient. Bon, j'ai touché le pied, c'est ça. Ça va aller. Il a eu les meilleurs modèles qui soient. Et je ne sais pas ce que vous pensez si, jeune converti, vous aviez le privilège d'être accompagné par Paul, Luc et Marc. C'est quand même extraordinaire. Pratiquement tous ceux qui ont le Nouveau Testament, 13 lettres de Paul, un évangile de Luc, un évangile de Marc, voilà ces hommes qui sont avec vous et qui sont vos modèles, qui vous accompagnent. On pourrait penser qu'influencé par de tels hommes, Démas puisse devenir comme Timothée, Tite ou Épaphras que Paul mentionne à plusieurs reprises et qu'il délègue aussi pour des missions précises dans les églises qu'il a fondées. Mais voici ce que dit Paul au sujet de Démas. « Tâche, dit Paul à Timothée, de me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde ou le siècle présent. » Et il est parti pour Thessalonique. Sans doute la phrase est brève, mais je pense qu'on peut deviner derrière les mots la tristesse et la douleur qui sont dans le cœur de Paul. en écrivant cela. D'ailleurs, s'il demande à Timothée de venir le rejoindre, la cause en est que Démas l'a abandonné. Tâche de me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné. Démas m'a abandonné au moment le plus terrible de ma vie. J'étais en prison. Je vais bientôt mourir, passer devant Néron, l'empereur cruel qui a tué de nombreux chrétiens. Et donc, dans ce moment le plus difficile de la vie de Paul, celui sur lequel il espérait s'appuyer l'a abandonné. Paul est habitué à la souffrance. Il sait que l'annonce de l'Évangile dans le monde va lui coûter quelque chose. Il en parle de toutes ses souffrances dans plusieurs lettres. Mais je pense qu'une des souffrances les plus difficiles pour l'apôtre, c'est de voir un de ses bien-aimés se détourner de lui, de la foi, de la vie engagée avec Dieu. Dans 2 Corinthiens 11, 29, Paul écrit « Qui est faible, que je ne sois faible ? Qui ne vient à tomber, que je ne brûle ?» La première chose que nous enseigne ce que dit Paul à Démas, c'est que nous sommes liés les uns aux autres par des liens d'amour solides. Et que le fait de nous distancer les uns des autres n'est pas sans conséquence dans le cœur. Nous sommes une famille. Et quand, dans une famille, un enfant s'éloigne, tourne le dos, les parents souffrent. Je crois qu'on doit prendre conscience de cela en tant que chrétien. Nous ne sommes pas simplement des individus, nous sommes une famille. Et chaque fois que la distance se crée entre des frères et sœurs, forcément, ça nous affecte profondément. Je ne sais pas comment vous réagissez, comment vous êtes, mais pour ma part, quand quelqu'un manque au culte, ça me fait quelque chose. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il n'est pas là, le frère ? Il a le droit. Hein. Il ne s'agit pas de me rendre compte des choses. Mais on doit prendre conscience de cela. On est une famille. Démas m'a abandonné. Bien sûr, ça peut arriver qu'on ne soit pas là. Hein. Mais il n'y a rien de pire, vous le savez, et l'histoire le montre, la psychologie le dit, que les blessures de l'abandon et de la trahison. Un enfant abandonné, des parents abandonnés souffrent. J'ai un voisin chez moi qui ne voit plus son père depuis des années. Il s'est disputé avec. Et dernièrement, j'ai revu son père. Et en évoquant ces choses, il avait les larmes aux yeux. Pourquoi son fils ne veut plus le voir ? Ils se sont disputés. Est-ce qu'il n'y a aucun moyen de se réconcilier, de se retrouver ? Les blessures de l'abandon sont peut-être les plus dures à encaisser. Les raisons de la démission de Démas, elles nous sont indiquées ici. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Je vais réduire la phrase. Démas m'a abandonné par amour. Par amour. Lydia n'est pas là ce matin. Si je vous disais, Lydia m'a abandonné par amour. Pour. Évidemment, vous penseriez qu'il y a un adultère derrière, tout simplement. Elle m'a abandonné par amour pour quelqu'un d'autre. L'apôtre Paul nous montre ici que la raison profonde de notre refroidissement spirituel n'est pas que nous n'aimons plus le Seigneur, ou les frères, mais nous aimons quelque chose d'autre, plus qu'eux. C'est ça le danger. L'amour est toujours là, mais il s'est déplacé. L'objet de l'amour n'est plus la priorité de l'Évangile, du Seigneur et des frères, mais il s'est porté sur autre chose. Nous sommes devenus des passionnés d'autre chose. L'apôtre Jean, Jacques écrit dans sa lettre, et d'ailleurs, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Si vous voulez prendre des claques, lisez l'épître de Jacques. Ça fait des vers en plus. Parce que Jacques, il est cru, il est direct. Il n'appelle pas un chat... Il appelle un chat un chat, un chien un chien. Adultère que vous êtes. Il compare notre relation avec Dieu à une relation de couple, un lien profond, une union. Et à partir du moment où nous aimons quelque chose d'autre, plus que Dieu, qui devient l'objet de notre affection, eh bien nous sommes dans l'adultère spirituel. Ce que nous aimons en premier finit toujours par déclasser tous nos autres objets d'affection. Là où est ton trésor, là se trouve ton cœur, a dit Jésus. Si Démas s'est détourné de Paul, s'il a abandonné Paul, c'est tout simplement qu'il s'est laissé attirer par autre chose, qu'il a éloigné de Paul, éloigné de ses compagnons, éloigné aussi du Seigneur. Parce que, après tout, quelqu'un pourrait se dire, Démas n'avait-il pas le droit de quitter Paul à un certain moment? Certes. Mais la suite de la phrase nous montre que le problème n'est pas qu'il a quitté Paul, c'est qu'il a quitté le Seigneur surtout. Il m'a abandonné par amour pour le monde présent. Ce qui se passe avec Démas nous rappelle que dans notre vie, tout est lié, toutes les choses sont liées les unes aux autres. À partir du moment où l'amour pour le Seigneur se refroidit, l'amour pour le monde grandit. À partir du moment où le monde commence à nous absorber, eh bien l'amour pour le Seigneur diminue. Et on prend sa distance, non seulement avec le Seigneur, mais aussi avec les frères, avec l'Église. On ne peut pas simplement aimer deux choses en même temps, passionnément. C'est impossible, et Jésus l'a dit. On s'attache à l'un ou on s'attache à l'autre, mais on ne peut pas s'attacher à deux choses vraiment, profondément. Et donc on peut dire que notre relation avec les autres, notre proximité, notre amour pour les autres, pour nos frères et sœurs, c'est aussi le baromètre de notre relation avec Dieu. C'est comme ça qu'on peut tester et connaître l'état de notre cœur vis-à-vis du Seigneur. Paul n'aurait pas été abandonné si Démas avait continué à être passionné pour l'Évangile, le royaume de Dieu. Mais parce qu'il s'est détourné de cela, il a abandonné Paul. Qu'est-ce que signifie donc cette phrase « Démas m'a abandonné par amour » pour le siècle présent? La première chose que ça veut dire, c'est que Démas a perdu le but même de la vie chrétienne. Il a perdu de vue le but. Il a oublié que nous sommes ici de passage et que le véritable objectif, notre véritable patrie, notre destination finale, c'est le ciel. C'est la maison de Dieu, le royaume de Dieu. Il a commencé de nouveau à s'intéresser à quelque chose qu'il pourrait réussir dans ce monde. Et il a abandonné, finalement, la course en plein milieu ou près de la fin, on ne sait pas, pour perdre de vue le but. Lorsque Paul, si Démas vient de Thessalonique, c'est intéressant de voir aussi dans la lettre aux Thessaloniciens, l'état d'esprit de cette église, au début, en tout cas. Paul dit, on raconte quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. C'est dans 1 Thessaloniciens 1, versets 9 et 10. L'église de Thessalonique était vraiment une église qui rayonnait par son témoignage. Paul dit que partout on parle de l'église de Thessalonique qui s'est tournée vers Dieu en abandonnant les idoles et en attendant du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. La dernière partie nous montre combien il est vital pour nous de bien regarder dans la bonne direction. L'église de Thessalonique restait vivante, engagée, parce qu'elle attendait du ciel celui qui devait venir, Jésus. Et je crois qu'à partir du moment où on perd de vue cela, eh bien, on perd de vue aussi le but, l'objectif vers lequel on marche. Paul le dit souvent, il le dit aussi à Tite. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Paul inclut toujours l'idée qu'on doit attendre Jésus, que ça doit être quelque chose de vivant en nous. Parce que c'est ça qui nous préserve de nous coller aux choses de ce monde. Et je pense que le problème de Démas, c'est qu'il a perdu de vue cela. Alors on peut peut-être trouver quelques excuses à Démas, parce que... Au temps de Paul, suivre Jésus coûtait très très fort. Si Démas a suivi Paul longtemps, ou au moins 10 ans, eh bien il a participé aux lapidations, au rejet de l'apôtre Paul, aux souffrances qu'il a vécues en partie. Et peut-être que Démas s'est lassé du prix à payer. Pourtant, Paul ne l'excuse pas pour cela. Rien ne justifie aux yeux de Paul, que l'on se détourne de ce qui fait le cœur de notre foi et de notre espérance, pour revenir en arrière et s'attacher aux choses de ce monde. Alors il va sans dire que si Paul n'excuse pas Démas alors qu'il payait un prix fort, eh bien nous sommes encore moins excusables, nous, qui ne souffrons pas comme ils ont souffert les premiers chrétiens, pour vivre leur foi. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. On peut se poser la question, qu'a-t-il donc de si précieux ce siècle présent pour que Démas abandonne la passion qu'il avait pour le Seigneur et pour la mission ? Était-ce le goût du confort, de la vie facile ? La volonté de ne plus être distingué des autres, mais d'être assimilé simplement au monde présent. L'apôtre Jean, dans sa lettre, nous dit que l'amour du monde se caractérise par 3 choses. Vous connaissez cela. Le premier, c'est la convoitise de la chair, c'est-à-dire la satisfaction des appétits charnels, l'amour de la bonne chair, de la vie facile, la recherche des plaisirs, le bien manger, le bien boire, la culture, le divertissement, le culte du corps, de l'apparence. Tout ça, c'est la convoitise de la chair. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas bien manger, bien boire. Ça veut simplement dire que quand ces choses deviennent plus importantes que notre relation avec Dieu, elles deviennent des idoles, tout simplement. Si on préfère les choses que Dieu a faites à celui qui les a faites, eh bien nous tombons finalement dans un asservissement. La parole nous appelle à vivre dans le monde avec sobriété et maîtrise de soi. La deuxième chose, c'est la convoitise des yeux, c'est le désir de posséder, d'accumuler, de s'acheter tout ce dont on a envie, l'attrait de la richesse, des biens, d'avoir l'iPhone dernier cri. Convoitise des yeux, désir d'avoir, de posséder, suivre ses envies. Et puis la troisième chose, c'est l'orgueil de la vie. Le désir de se faire un nom, d'être quelqu'un, de mettre sa carrière au-dessus de tout, quitte à délaisser sa famille, à écraser les autres pour y arriver. L'envie de paraître, d'être quelqu'un, d'être considéré. Ce sont ces trois choses qui façonnent la mentalité du monde. Et Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, « Ne vous conformez pas au monde actuel. N'imitez pas les modes, la manière de penser du temps présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Ça veut dire « Apprenez à penser comme la parole de Dieu vous invite à penser. » Mettez devant vos yeux les priorités qui sont celles que Dieu vous indique. Épousez la philosophie de vie de la parole de Dieu. Rappelons-nous que le monde entier est sous l'influence d'un esprit mauvais qui est un menteur. Et nous avons besoin d'être transformés dans notre intelligence pour penser juste, penser comme Dieu veut que nous pensions. Alors, en conclusion de Démas, que peut-on dire ? Je pense que l'abandon de Démas, c'est un avertissement pour nous et pour tous les chrétiens de tous les temps. Démas nous montre que ce n'est pas parce qu'on commence bien sa vie chrétienne qu'on la finit bien. Pour ma part, j'ai connu pas mal de Démas dans ma vie, des gens qui étaient un moment dans la foi. Même qui ont prêché l'évangile, des évangélistes, mais qui ont laissé quelque chose s'enraciner dans leur cœur petit à petit, gagner leur vie. Et tout d'un coup, c'était fini, on ne les voyait plus. Ils sont repartis dans la vie qu'ils avaient abandonnée. C'est ce que dit le Proverbe 26, verset 11. Ils sont retournés dans ce qu'ils ont vomi, c'est écrit. Avant d'être comme Démas, je suppose que Paul a dû parler à Démas. Je ne peux pas m'imaginer que Paul n'ait rien dit à Démas. Pas possible. Est-ce que nous écoutons les exhortations fraternelles quand elles cherchent à nous ramener au centre de la vie chrétienne ? Démas a fait son choix malgré les instants de supplication peut-être de Paul pour lui. Alors je vais m'arrêter avec Démas parce que j'ai dit que je voulais parler d'un deuxième. Ça ne va pas être aussi long. Hein. Le deuxième, c'est Marc. Et Marc, c'est l'anti-Démas. 2 Timothée 4, 10, c'est Démas. 2 Timothée 4, 11, c'est Luc, mais aussi Marc. Luc seul est avec moi. Et voici ce que demande Paul. « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » S'il y a bien quelqu'un sur qui Paul ne misait pas au départ, c'était Marc. Démas s'est montré décevant à la fin de la vie de Paul, mais pour ceux qui connaissent la Bible et les actes des apôtres, on voit que Marc l'a déçu au début de sa vie missionnaire. Lors du premier voyage missionnaire de Paul avec Barnabas, Paul et Barnabas sont partis avec Marc. Mais dans Actes 13, 13, il est dit que Marc les a abandonnés, le même mot que Démas. Il est retourné en arrière. Pas pour les mêmes raisons, cependant. On suppose que Marc était très jeune, peut-être 16, 17 ans, 18 ans, je ne sais pas. Et donc il est revenu en arrière, peut-être parce qu'il a eu peur aussi du prix à payer. Un peu plus loin, dans Acte 15, lorsque Paul s'apprête à commencer son deuxième voyage missionnaire avec Barnabas, Barnabas propose de reprendre Marc. Et vous connaissez l'histoire, le désaccord fut si vif entre les deux apôtres qu'ils se séparèrent, il est dit. Paul a dit non. Ah non, pas Marc. T'as vu ce qu'il a fait lors du premier voyage. Et le deuxième voyage va être pire. On va aller plus loin. Il faut s'attendre à des choses plus difficiles que le premier. On ne peut pas prendre Marc. Il n'a pas fait ses preuves. Il est dit, Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans leur tâche. Mais Barnabas, qui était le cousin de Marc, ils étaient cousins, insista, pas question de ne pas donner une deuxième chance à Marc. Qui avait raison? On a déjà posé la question X fois. Moi, je pense que les deux avaient raison. Parce que c'est vrai que c'était un combat difficile et ce n'était pas évident de reprendre Marc si Marc n'était pas fiable. Mais d'un autre côté, Barnabas avait raison. Il fallait donner sa chance à Marc. Et donc, les deux hommes se sont séparés. Paul est parti avec Silas et Marc est parti avec Barnabas. Ce qui est intéressant, c'est de voir que par la suite, Paul reconnaît la valeur de Marc. À trois reprises dans le Nouveau Testament, il parle de Marc positivement. Et Marc, comme on le lit dans Colossiens et Philémon, a finalement rejoint de nouveau Paul, puisqu'il fait partie de ses collaborateurs. Et à la fin de sa vie, donc dans cette deuxième lettre, il dit « Prends Marc et amène-le-moi, car il m'est utile pour le ministère ». C'est pour ça que je dis que Marc est l'anti-Démas. Démas a été utile au départ, mais il a abandonné la course. Marc était faible au départ, mais il s'est fortifié. Et finalement, il est devenu un collaborateur fiable pour Paul. Alors, j'aimerais tirer plusieurs conclusions de ces salutations de Paul à Démas et Marc. La première, je l'ai déjà dit, bien commencer avec le Seigneur ne veut pas dire bien finir. La vigilance est de mise à chaque instant dans notre vie. Et la vigilance, elle concerne d'abord notre cœur. Vous connaissez ce proverbe 4:23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est particulièrement vrai aussi pour ceux qui sont les plus anciens dans la foi. Parfois, on pense, voilà, ça fait 30 ans, maintenant, c'est bon. Hein. Mais le nombre d'années n'est pas une garantie de sécurité. Démas a été longtemps avec Paul, et pourtant, à un moment, il s'est détourné. C'est Salomon, à la fin de sa vie, c'est le moment où il a le plus péché. C'est là qu'il a commis les pires fautes de sa vie. Deuxième chose qu'on peut dire aussi, c'est que les modèles, les bons modèles qu'on a sous les yeux ne suffisent pas pour nous garder aussi dans la passion de l'Évangile. Non seulement il faut avoir des bons modèles, mais il faut les imiter. C'est ce que nous dit la Bible. Imitez ceux qui marchent devant vous dans la foi, dans l'amour, dans la persévérance. Une autre leçon qu'on peut apprendre, c'est celle que nous donne Marc, c'est que les mauvais départs ne préjugent pas de la façon avec laquelle nous terminerons la course. C'est pas parce qu'à un moment, on n'est pas à la hauteur de quelque chose qu'on est mis de côté pour toujours. On peut apprendre. Et on peut devenir un homme fiable, comme l'a été Marc, le nom de Marc dans la Bible ne fait pas honte au Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il faut regarder la fin des hommes, pas simplement le début ni leur marche, mais la fin. Comment est-ce qu'ils ont fini, ces hommes? C'est en les imitant qu'on peut aussi terminer comme eux. J'aimerais conclure par ce verset de l'Épître aux Hébreux, où il est dit « Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Alors que Dieu nous aide à veiller chaque jour, à entretenir notre relation avec lui, travailler à ce qu'il n'y ait pas de distance qui se crée entre nous et le Seigneur, nous et nos frères, parce que notre cœur est rempli de pièges et on peut facilement tomber dans l'un d'entre eux, mais Dieu veille et on peut revenir à lui à chaque moment, ce qu'on a vu aussi ce matin. Voilà, on va prier.